peut-être trouver un successeur à Monsieur de Bois d'Anguin.
Ma sœur? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis 2 jours.
Ah, alors?
Et quand cela serait? Ce ne serait pas encore une raison pour ne pas être debout à 12h15. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure.
Quoi?
Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas la chose.
Ah?
Non.
Oh, ça vaut la peine!
Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai jamais été mariée, moi. Vous comprenez, la sœur d'une chanteuse de café-concert? Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? N'importe. Il me semble que si toqué soit-on d'un homme, on peut bien, à midi, on va regarder les coqs. Est-ce qu'ils sont pas debout à 14 du matin? Eh ben alors...
C'est très juste.
Oh, Marceline!
Arrive donc, toi!
Un antipyrine vite, un cachet!
Un cachet pourquoi? Tu es malade, moi?
Oh non, moi je suis bien heureuse.
Non, c'est pour lui, il a la migraine. Qui lui?
Mais Fernand, il est revenu.
Monsieur de Bois d'Anguin? Non.
Si.
Oh, Firmin, Monsieur de Bois d'Anguin qui est revenu.
Monsieur de Bois d'Anguin? Pas possible. Oh, bien j'espère. Madame doit être contente.
Si, je suis contente. Bah, vous pensez? Non, mais tu juges de mon émotion quand je l'ai vu arriver hier au soir. Merci. Figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours.
Non. Oh, c'est affreux.
Oh, m'en parle pas. S'il en était pas revenu, le pauvre chéri, il est si gros. Firmin.
Madame.
Vous avez remarqué, n'est-ce pas?
Quoi donc, madame?
Comme il est beau, monsieur de Bois d'Anguin.
Ah oui!
Oh, oh, je l'adore!
C'est...
Oh, tiens, c'est lui qui m'appelle, tu reconnais sa voix?
Si voilà, mon chéri! On peut le voir?
Oh, mais oui, c'est Marceline qui vient me dire bonjour!
Ah, bonjour Marceline!
Bonjour, monsieur Fernand!
Ça va bien, monsieur Fernand? Oh, tant pis, tant pis!
Alors après, toi, Marceline, on va déjeuner!
On a sonné!
Et je vous dis.
Pour
mourir d'inanition.
Bonjour, monsieur.
Ah,
et monsieur
de Chelsea. Ah, oui,
Marie.
Monsieur
vient
déjeuner.
Oui, bonjour, Marceline.
Bonjour.
Et monsieur ne sait pas la nouvelle? Il est revenu.
Qui?
Monsieur de Bois d'Anguin.
Non.
Hier soir, parfaitement.
Oh, c'est à tordre.
N'est-ce pas, monsieur? Mais je vais dire à madame que monsieur est là.
Quelle sale girouette.
Madame! C'est monsieur! Monsieur le père de l'enfant de madame! Madame, viens
voir, viens. Alors comme ça, il est revenu. Et naturellement, sa fille est plus belle. Oh, ça, ma pauvre Lucette, à quand cette fratelle d'être une femme à Tocade? Enfin, son doigt d'en haut bien. C'est un charmant garçon qui montre tout ça, mais enfin, toi, ce n'est pas une situation pour elle. Il n'a plus de
oui.
Ah, Phédo, ah, le théâtre. Mesdames et messieurs, nous quittons maintenant le théâtre Marigny, d'où vous avez pu entendre un extrait de la représentation d'un fil à la patte de Georges Phédo dans la mise en scène de Jacques Charon avec l'excellente troupe de la Comédie Française. Georges Phédo, dont l'amant était certainement dans le placard. Nous allons rejoindre nos studios pour une nouvelle édition d'Époque consacrée ce soir à la présidentielle 2017. Bouh, j'ai peur. En venant au Marshall aujourd'hui, il pleuvait et je me suis soudain rappelé Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisable qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante: comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables, la vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Le meilleur des mondes, quoi. Je vous laisse maintenant entre les mains de la rédaction et de ses invités qui vont faire grincer vos zygomatiques et vous creuser le rassoudoc avec époque.
Driver man, he made a light, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow, driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time.
Un objet terrestre, fait de main d'homme, fut lancé dans l'univers pendant des semaines. Il gravita autour de la Terre, conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes, le Soleil, la Lune, les étoiles. Certes, le satellite artificiel n'était pas un astre. Il n'allait pas tourner autour de son orbite pendant ses durées astronomiques, qui à nos yeux de mortels enfermés dans le temps terrestre paraissent éternel. Cependant, il put demeurer quelque temps dans le ciel. Il eut sa place et son chemin au voisinage des corps célestes, comme s'il l'avait admis à l'essai dans leur sublime compagnie. Cet événement que rien, pas même la fission de l'atome, ne saurait éclipser, eût été accueilli avec une joie sans mélange s'il ne s'était accompagné de circonstances militaires et politiques gênantes. Mais, chose curieuse, cette joie ne fut pas triomphale, ni orgueil, ni admiration pour la puissance de l'homme et sa formidable maîtrise n'emplirent le cœur des mortels qui, soudain, en regardant les cieux, pouvaient y contempler un objet de leur fabrication. La réaction immédiate, telle qu'elle s'exprima sur le champ, ce fut le soulagement de voir accompli le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Et cet étrange propos n'était pas une fantaisie de journaliste américain. Loin de là. Inconsciemment, il faisait écho à la phrase extraordinaire que, plus de 20 ans auparavant, l'on avait gravée sur la stèle d'un grand savant russe. L'humanité ne sera pas toujours rivée à la terre. Seule vraie question qu'il faut se poser à l'heure actuelle est comment ne pas reproduire les mécanismes historiques ? Comment y échapper ? Il n'y a rien de pire que le sentiment de voir des panneaux de danger familiers défiler en restant bouche bée. Hein ? Cette autoroute que l'on emprunte quotidiennement est celle des nids de poules et de la faiblesse, des poncifs et des excuses. L'histoire nous enseigne sans cesse des leçons que nous, mauvais élèves ou garnements, apprenons au plus mal ou oublions. Tout simplement. Changer de cadre est nécessaire. Époque, pour en finir avec.
Bonsoir. Est-il possible de faire du théâtre et de parler de politique ? Ou faire de la politique et faire du théâtre ? On ne sait pas. J'accueille ce soir 3 metteurs en scène pour en parler. Morgane Laurie.
Bonsoir.
Bonsoir. Avec son spectacle autour des fantômes.
Avec les fantômes,
autour
des
fantômes. Avec les fantômes. Vous travaillez en tout cas autour des fantômes.
Oui.
Benjamin Poré avec la 5e version de La Mouette de cette saison. Vous n'en avez qu'une seule, hein, mais pas les 4 autres.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est vrai, il y en a eu 5.
Il y en a eu
5. Dont la vôtre. Et Pierre-Marie Baudouin qui travaille autour, c'est pas encore prêt, mais c'est en gestation. Qui travaille autour de l'affaire Karachi. Donc je vous laisse ouvrir, puisque c'est vous le plus sur le papier politisé, on va dire.
Bonsoir. Oui, tout à fait. C'est en gestation, c'est en écriture. Je fais un théâtre qu'on peut qualifier de théâtre politique, oui.
Qu'est-ce que, avant de débattre, hein, qu'est-ce que l'affaire Karachi ? Parce que je pense que certains de nos auditeurs ne sont plus ou pas au courant,
oui.
l'ont oublié.
L'affaire Karachi, c'est deux affaires en une. En 2002, à Karachi, au Pakistan, il y a un attentat contre un bus des constructions navales. Un terroriste se fait exploser dans une voiture, une Toyota Corollis, et tue 11 ingénieurs français qui étaient là pour assembler un sous-marin au Pakistan, un sous-marin vendu par le gouvernement d'Edouard Balladur en 1995. Edouard Balladur se présente contre Jacques Chirac, alors qu'ils sont issus de la même famille politique. Il se présente contre lui, mais n'a pas d'argent, n'a pas le parti, le RPR derrière lui. Donc, il trouve l'idée majestueuse de vendre des sous-marins nucléaires au Pakistan. Et grâce à ce contrat d'armement de plusieurs millions d'euros, il finance sa campagne électorale par un système occulte de commissions et rétro-commissions.
Très bien. Donc, j'entends occulte, je me tourne vers vous. Bon. L'occulte, les fantômes, est-ce que ça vous parle ce
Karachi.
Sujet Karachi ou ce que ça cache? Parce que c'est vrai qu'on parle de choses un peu cachées, un peu souterraines, sous-marines.
Je constate en tout cas que les morts font agir.
Et vous, ça vous, quand vous dites les morts font agir, c'est qu'ils sont présents, vous les sentez, vous les...
Je pense que c'est une question qu'il faut se poser, quoi. Qu'est-ce que les morts nous font faire? Je trouve que faire un spectacle sur Karachi, c'est un bel exemple, quelque part, de la manière dont les morts agissent sur nous.
Et vous, dans vos spectacles, comment vous abordez ce phénomène de... Enfin, ce que vous parlez des fantômes, c'est vrai que vous croyez aux fantômes?
Je constate que les morts nous font agir et que je suis souvent, bien plus que je ne le pensais, agi par des fantômes, oui.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous croyez aux fantômes ?
Je crois que l'espace dans lequel on se situe est un espace où, justement, il est possible de croire et de ne pas croire en même temps.
Quel espace ? La Terre ou les plateaux de théâtre ?
Les plateaux de théâtre.
D'accord. Benjamin, pour vous, les fantômes, les plateaux de théâtre, ça vous parle avec Trépleuf, par exemple, qui est votre héros que vous traitez d'une manière très, très puissante et très poussée dans votre mise en scène ?
Oui, évidemment. Non, après je suis d'accord, il y a un lien qui se fait entre les fantômes du passé, les fantômes du présent, les fantômes du futur surtout. Donc sur ce point-là, je rejoins totalement Morgane.
J'en suis ravi.
Voilà. Après, ensuite, au niveau de la place qu'on peut donner à Trépleuf, c'est-à-dire que j'essaie de reprendre les propos de Pierre-Marie, c'est-à-dire en quoi le théâtre peut être politisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on traite de sujets qui peuvent être assez simples, c'est-à-dire la place d'un auteur, Trépleuf dans la pièce essaye d'écrire, donc Tchekhov interroge la place de l'auteur dans la société, la place des mots, comment on se construit avec les mots, comment on dépasse nos niveaux, c'est déjà d'une certaine manière faire de la politique. Après, là où peut-être on va se départir, c'est qu'on n'a pas la même façon de le mettre en scène. Après, voilà.
C'est ça qui fait la beauté de vos différences.
Oui, je note qu'il y a pas mal de différences, effectivement, parce que j'entends des choses là. J'ai jamais parlé de théâtre politisé.
Vous avez parlé de théâtre politique, alors.
Voilà.
Quelle est la différence ? Oui, c'est parce qu'il faut vraiment.
Enfin... Elle est énorme. J'ai jamais dit que je faisais du théâtre politisé, surtout pas. Le théâtre, quand je dis théâtre politique, c'est un théâtre qui dialogue avec le politique. Si aujourd'hui la politique telle qu'on nous la présente, ne me satisfait pas complètement. Le théâtre que je propose n'est pas forcément un théâtre qui met en scène le jeu politique ou qui arrache un événement politique du réel et le met sur un plateau de théâtre.
Ah, le réel. Le réel.
Oui, le réel. Oui, ben oui.
Vous avez un problème avec le réel, Benjamin ?
Non, mais j'ai...
On a tous un, moi j'ai des problèmes avec le réel.
On a tous un problème.
Ah, mais le réel, c'est quand on se cogne, hein, comme disait Lacan.
Ben oui.
Oui. Donc oui, pour revenir à votre
Non, mais ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur justement comment Pierre-Marie veut traiter le réel. Qu'est-ce qui est réel déjà ?
Eh bien, le réel, je le mets sur un plateau de théâtre et je l'observe. Pas forcément dans un drame bourgeois, pas forcément dans une pièce de Tchekhov, pas nécessairement dans une énième version de La Mouette.
Vous allez me dire évidemment qu'est-ce que le drame de Trépleuf face à la tragédie d'Alep, c'est ça ?
J'allais vous le dire.
J'ai devancé votre raccourci.
Oui, mais bon, répondez à cette question peut-être.
Mais la tragédie, si vous voulez, la tragédie n'est pas hiérarchisée. Il n'y a pas une tragédie qui est plus forte qu'une autre, il n'y a pas une tragédie qui est plus grande qu'une autre. Faut essayer de penser les choses de manière un tout petit peu plus large.
Non, mais
Morgane, on va essayer de faire intervenir une fille un peu plus.
Oui,
je
pense qu'on ne frappe jamais la bonne personne.
Dans quel sens vous dites ça ?
Non, j'assiste à ce débat et je me demande.
Alors pour revenir aux fantômes, parce que c'est vrai que c'est très intriguant, on en a parlé un petit peu hors antenne, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Ah bah comme toute chose qu'on défend alors qu'on n'a pas d'argent.
Oui. C'est sûr.
Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre ?
Oui, je crois qu'on rentre dans le côté un peu crucial de ce qui va nous opposer.
C'est-à-dire ?
L'argent ?
Voilà, autour de cette table, il y en a qui
C'est-à-dire que théâtre et politique pose à un moment donné quand même la question de la subvention, oui, je crois.
Qui aujourd'hui fait des formes avec de l'argent ?
À qui ?
Pour
certains, qui ne sont pas là.
Voilà. Moi, je pense que ce Benjamin, qui est à ma gauche, fait plutôt un théâtre de droite. Et voilà, donc, à un moment donné, je veux bien faire du théâtre bourgeois, mettre en scène Trépleuf face à son drame personnel, c'est une chose. S'emparer du réel et voilà, le problème avec le théâtre traditionnel, c'est que la tragédie, elle est fictive. Trépleuf, c'est quoi, c'est
la
quoi,
tragédie, c'est... elle est fictive.
Mais oui, sa tragédie est fictive.
Est-ce que d'après
moi,
vous...
Je pense qu'il y a une part de réel dans la fiction, sinon on ne consacrerait pas notre vie à ça. Hein. C'est-à-dire que la fiction existe dans le monde, je crois que c'est assez clair,
oui,
sinon on ne ferait pas
existe,
ce qu'on fait.
Mais...
Donc,
non, mais
je ne sais pas ce que tu entends par
réel. Le réel,
réel
ne sera
en fait,
jamais
si
que
veux.
Fiction.
Morgane, attendez,
tout est composé de fiction. L'autofiction, etc. Comment on interroge l'histoire, c'est encore un autre biais. Si on a besoin de mettre le réel,
il y a je crois que Pierre-Marie a le monopole du réel, il faut l'accepter. Non, c'est comme
non,
ça.
Non, mais c'est une citation de François Mitterrand, ça. Non.
Mais on ira faire un stage.
On va juste, on va essayer de faire parler un petit peu Morgane pour voir ce qui se passe avec les fantômes.
C'est gentil de prendre ma défense parce que
non, c'est pas la défense. Non, c'est juste que vous n'avez pas assez parlé.
Je voulais juste profiter de cette émission pour pouvoir le dire parce que j'ai accepté au début. Pour que ça fasse rire les gens, que soi-disant j'ai de l'argent, je voulais juste dire que je n'ai pas d'argent.
Bien sûr.
Je fais du théâtre comme les autres, sans argent. Merci.
Alors Morgane, est-ce que vos fantômes sont riches ?
Oui. Non, je trouve ça intéressant, cette technique de défense. Moi, je fais du théâtre sans l'Odéon. La question.
C'est peut-être l'Odéon qui fait du théâtre sans vous.
Ah, ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Alors, les fantômes.
C'est un fantôme d'une certaine manière.
Si vous
L'Odéon est un fantôme maintenant.
Est-ce que l'Odéon agit sur vous ?
Ah bah jusqu'à présent pas assez à mon goût, mais j'y travaille, je tire les cartes tous les matins. Je pense que ça va finir par avoir une action là-dessus.
Alors pour en revenir aux fantômes, vous avez travaillé sur Mallarmé, vous m'avez dit
oui.
Hors antenne que Mallarmé vous avez habité pendant, enfin vous aviez travaillé pour Mallarmé.
Oui, je lui adresse oui à chaque fois bien sûr.
Et d'une manière concrète.
J'adresse le poème à Mallarmé, oui, donc c'est assez concret. Oui.
Mais il vous répond.
Ah bah c'est pas l'objectif, puisque moi ce que je me fixe comme objectif, c'est qu'il soit dessinataire. Par exemple, le public ne me répond pas nécessairement quand je lui parle au théâtre.
Très bien.
Voilà.
Donc je crois que... Non, mais...
Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être agi par un mort ? Réfléchissez-y, c'est
intéressant. J'y réfléchis. Non, mais j'y réfléchis tous les matins quand je me brosse les dents, mais c'est pas à ce point-là non plus. Pierre-Marie, donc dans l'affaire Karachi, pour revenir à votre écriture, parce que vous écrivez aussi.
Non, mais son but, c'est d'écrire sa propre écriture du réel. Ouais. Voilà.
Je trouve que c'est louable. Je fais pas du théâtre pour ou avec les morts. Je fais pas du théâtre mort. Je fais du théâtre qui est imprégné par le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, il est...
C'est vrai que la mort, c'est une question très, très inactuelle. On est tous d'accord là-dessus. Vrai que c'est des questions qu'on ne se posera pas demain, pas après-demain. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est, c'est de l'art vivant. Profondément vivant, profondément... Et ce que je voulais dire tout à l'heure, pour revenir, c'est que aujourd'hui, les tragédies ne sont pas fictives.
Les Grecs souffraient beaucoup moins que nous, en fait. C'est ça ce que tu veux dire, qu'il y a une époque où les tragédies étaient moins fictives ou plus fictives. Ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Non, mais sérieusement. C'est que je veux bien qu'on discute sur le réel, mais qu'on le définisse un petit peu, qu'on se mette d'accord au moins, de savoir de quoi on parle.
On avait besoin de propulser, bien sûr, mais je vais préciser ma pensée.
Tu vas encore nous ressortir Auschwitz, je suppose.
Exactement.
Avant et après Auschwitz.
Aujourd'hui, on ne fait pas du théâtre de la même façon après Auschwitz.
On
ne pense pas pareil après Auschwitz.
En faisant une passerelle un peu douteuse, mais est-ce que vous ferez du théâtre différemment après-demain ?
Eh bien, en tout cas, je serai agi par demain.
Benjamin ?
Ce serait intéressant, par exemple, de se demander qu'est-ce que Treplev voterait ?
Rouge ou blanc ?
Je pense qu'il s'abstiendrait.
Mais, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans votre théâtre ? Vous cherchez l'humain ? C'est quoi l'humain pour vous ?
Je cherche à donner des nouvelles de... Oui, à comment dire ?
On est là.
Qu'est-ce qui correspond à l'humain pour vous ?
À définir l'humain par son...
C'est quoi qui correspond à l'humain ?
C'est ce qui rassemble l'humain, c'est son inhumanité.
Donc vous votez Marine Le Pen ?
Mais non.
Morgane, demain, ça se passe comment pour vous ?
Écoutez, j'espère bien.
Bien, comme tout le monde. Sur ces paroles, on termine. Merci beaucoup.
Merci.
Pierre-Marie.
Merci.
Benjamin. Morgane, à bientôt. You lose it.
La crise mondiale actuelle a atteint la France après les autres pays. Mais bien qu'il ne paraisse pas, elle l'a atteinte plus gravement. À l'inverse de ce qui se passe par ailleurs, la France actuelle souffre de la crise dans sa conscience. Bien plus que dans ses capitaux et ses richesses. Et la jeunesse française ressent particulièrement les effets de cette crise. Celui qui aurait connu Paris il y a 3 ans et qui y retournerait maintenant ne le reconnaîtrait plus. En apparence, la vie a peu changé. La ville a peu changé, mais la vie de Paris. Ce qui en faisait la vibration, la jeunesse, l'éclat, le plaisir. C'est cela qui a changé terriblement. C'est donc surtout la jeunesse qui souffre. Et il n'est rien qui affecte autant la vie profonde d'un pays que le mal de sa jeunesse.
Bonsoir, Georges Beignet. Petit texte d'Antonin Artaud de 1936. Ça vous dit quelque chose, non? Enfin, ça vous inspire, ça vous parle, pas?
On n'aurait pas dit 1936, ouais. Mais on...
On aurait dit ce matin au petit déjeuner.
Par exemple, oui.
Bonsoir, donc je vous accueille, Georges Beignet, en marge de la campagne présidentielle, puisque l'époque tourne autour de la campagne présidentielle. Vous avez travaillé à l'Élysée en tant que maître d'hôtel en 1995 et jusqu'en... Non, de 1994 à 1995.
Non, je suis rentré en juin 1995. D'accord. Voilà, à la passation.
Très bien, à la passation, donc entre Mitterrand et monsieur Chirac.
Voilà, exactement.
Vous pouvez nous raconter un peu comment c'était ?
Oui, bah, ça a été une belle expérience. Hein. C'était remarquable. Non, c'était une armée luxueuse. On était bien rémunérés. On s'amusait beaucoup. On passait de bons moments parce que surtout, en fait, ce qui était intéressant à l'époque, c'est-à-dire que, en fait, Mitterrand, il vivait pas à l'Élysée, il vivait dans Paris. Et en fait, quand Chirac est arrivé à l'Élysée et que Madame Chirac, ils ont décidé, je veux dire, d'investir les lieux, ils ont tout fait restaurer. Mais ce qui était assez agréable, c'est que les travaux ont pris un peu de temps et nous, on a pu bénéficier de ce temps-là. En fait, on était libre à l'Élysée à partir de 6h lorsque tous les bureaux et toute la partie administrative fermaient. Bon, voilà, c'était notre terrain de jeu, un peu, l'Élysée, parce que tout le monde partait, et nous, on se retrouvait, voilà.
Donc, votre fonction, votre journée type, ou ce que vous y direz concrètement, c'était quoi? Alors, un petit peu une idée de ce qui se passait.
Alors, notre journée type, en fait, l'appartement de permanence, il a pour...
Alors, l'appartement de permanence, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est.
Voilà. Alors, l'appartement de permanence, c'est un appartement qui est mis à disposition des conseillers et des bras droits du président. C'est-à-dire que lorsque toute la partie administrative, en fait, ferme à partir de 18h, il y a un conseiller, un bras droit du président, qui vient dans cet appartement passer la soirée, y dormir et y manger. Et nous, donc, on était maître d'hôtel et on était là pour le recevoir, le servir. Et le matin, lorsqu'il partait, on s'occupait de remettre tout l'appartement en fonction, c'est-à-dire refaire le lit, bref, passer l'aspirateur.
Vous avez des choses à nous raconter là-dessus, voilà. Des petites anecdotes où c'est indiscret de rentrer dans le détail ou... sais pas.
Oh, c'est pas très indiscret de rentrer dans le détail.
Il y a des choses qu'on peut savoir.
Oui, et quoi ? Enfin, par détail.
Des gens que. Non, je sais pas. Vous me parlez de Madame Chirac, donc. Comment était Madame Chirac à l'époque ?
Ah, Madame Chirac, c'était la personne la plus problématique de l'Élysée. La personne la plus dure. La plus exigeante.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, elle a remis de l'ordre à l'Élysée. C'est-à-dire que
avant, c'était le bordel ?
Avant, c'était. Enfin, on pourrait dire ça comme ça, ouais, c'était un vrai bordel. Parce qu'en fait, tous les gens qui travaillaient à l'Élysée étaient formés, faisaient 2 mois de classe à La Rochelle. Par exemple, la personne qui était responsable de l'économat, qui s'occupait d'acheter les vins, par exemple, pour l'Élysée, il n'avait aucune culture, il partait à Bordeaux, il achetait que du Bordeaux en rouge et que du Bourgogne en blanc. Bref, c'était très pauvre. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que lui pouvait après profiter, il emmenait sa maîtresse. Enfin, ouais, ça se passait comme ça, en fait, à l'Élysée. Ça se passait un peu comme ça.
Et donc, Madame Chirac a castré tout ça.
Oui, elle a un peu cassé tout ça, elle a fait peur aux gens. Et c'est vrai que... Mais je me souviens, il y avait une fois où il s'est passé quelque chose qui était assez étrange. C'était un week-end, en fait. On était à l'Élysée. Et donc, il n'y avait personne à l'Élysée le week-end. Tout était fermé. Et nous, on s'occupait juste de servir les conseillers. Et puis, ça nous arrivait comme ça de boire l'apéro, ruinard. Enfin, on buvait du champagne. Et puis un jour, comme ça, sur la porte de l'Élysée, on entend un truc. On se dit, qu'est-ce que c'est et tout. Et puis, j'ouvre discrètement la porte, et là, on voit c'est la queue du chien, en fait, de Madame Chirac qui tapait sur la porte, comme ça. Du coup, ça nous a prévenu que Madame Chirac n'était pas loin et qu'il fallait ranger les verres.
Elle revenait dans les couloirs ?
Voilà, oui, elle revenait dans les couloirs, elle n'était pas loin, elle arrivait. Donc voilà, on a tout remis l'office de permanence au propre. Et puis elle est arrivée, elle a ouvert la porte et voilà.
Est-ce qu'il y avait de la corruption ?
Oh, à l'intérieur, corruption, oui, parce que de toute façon, à l'Élysée, l'argent compte pas, en fait. Il n'y a pas de notion d'argent à l'Élysée. Et par exemple, alors il y a les ailes à l'Élysée où, par exemple, ils font les menus présidentiels, alors des beaux menus à la feuille d'or, c'était très beau. Et on allait les voir, on dit, ah, disons, il me faudrait un menu, tu pourrais pas m'en donner un pour ma famille. Moi, hier, j'ai un conseiller qui est venu, du coup, on l'a un peu chargé, il a pas bu de vin, on lui a dit qu'il avait pris 4 bouteilles, j'en ai 3 de côté, je te donne 2 bouteilles de ruinard, tu me donnes 2 menus, et puis...
Ouais, donc c'est du trafic de trafic de bouffe, quoi.
Voilà, du trafic de bouffe, de menus, de vin.
Alors, moi, j'ai une question. Enfin, je sais pas que j'ai une question. Je me demande comment ça se passait. Vous donc, il y avait les conseillers qui étaient dans les appartements de permanence. Vous faisiez votre service et vous aviez tout un cérémonial. Vous aviez un local où vous reposiez. Vous aviez quoi ? Enfin, ça se passe comment ?
En fait, c'est une sorte, c'est ce qu'on appelle l'office. En fait, c'est une pièce qui est juste à côté de l'appartement. Où on a tout à disposition, des verres, des couverts pour faire les mises en place. C'est là où on reçoit les plats et voilà.
D'accord. Et donc vous, ce petit local à côté de l'appartement, c'est pas là où comment il s'appelle déjà ? Enfin, François de Grossouvre, c'est foutu en l'air, non ? Enfin, c'est suicidé, pardon.
Non, c'était pas de Grossouvre, c'est Bérégovois qui s'est suicidé. C'était
oui.
Bérégovois.
Oui, Bérégovois s'est suicidé au bord de la Nièvre. Il s'est pas suicidé devant le.
Ah non, ça, c'est de Grossouvre. Non, ça me dit rien du tout, de Grossouvre.
Marie-François Durand de Grossouvre. Née le 29 mars 1918 à Vienne, en France, et mort le 7 avril 1994 à Paris, est un industriel et conseiller de François Mitterrand. Il descend d'une ancienne famille bourgeoise du Bourbonnais, 16e siècle, fixée à Grossouvre dans le Cher comme maître de forge fin du 18e siècle. C'est un descendant de Jean-François Durand, seigneur de Grossouvre, 1737-1802, issu d'une famille de juges et officiers des basses marches du Bourbonnais dont la filiation est établie depuis 1596. Par sa grand-mère paternelle, née Panon Duhasier, Grossouvre est aussi apparenté à la famille Panon des Bassins de Richemont. François de Grossouvre est élevé en France, chez les Jésuites, au lycée Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement de Paris. Il fait ensuite des études de médecine à Lyon. Bien que n'ayant jamais exercé la médecine dans le civil, il gardera un intérêt pour le sujet et, quadragénaire, il passera un diplôme de rhumatologie. Il participera aussi à la création de la clinique Saint-Louis à Lyon, dans le quartier de Vaise, et du centre anti-migraine de Vichy. Quand survient la Seconde Guerre mondiale, il est affecté comme médecin auxiliaire à un régiment de tirailleurs marocains et rejoint ensuite une équipe d'éclaireurs-skieurs dans le Vercors, où sa mère a une maison. Il rejoint le maquis de la Chartreuse en 1943, près de Grenoble, et participe au combat du Vercors. Il avait alors le nom de guerre Claubert, de Claudette Berger, sa fiancée qui deviendra son épouse. En 1944, il rencontre Pierre Mendès France à bord d'un bombardier. Ce dernier sera à l'origine de la première rencontre entre François de Grossouvre et François Mitterrand. Les deux hommes se lient d'amitié lors d'un voyage en Chine en 1959. Ses proches soulignent la fibre sociale profonde et sincère de François de Grossouvre. Il achète une propriété dans l'Allier, non loin de la Nièvre, fief électoral du futur président, qu'il exploite et où il peut s'adonner à ses deux grandes passions, l'équitation et la chasse. Il prend également un pied-à-terre à Paris et s'active dans l'ombre de François Mitterrand. En 1974, il devient le parrain de Mazarine Pinjot. La fille qu'Anne Pinjot donne à celui-ci et veille sur les secrets de la famille Mitterrand, dont aucun ne sera révélé du vivant de Grossouvre. Hein. Il jouera un rôle clé pour le financement des campagnes électorales de François Mitterrand en 1965, 1974 et 1981. Il est nommé dès juin 1981 chargé de mission auprès du président de la République qui lui confie les problèmes de sécurité et les dossiers sensibles, notamment ceux liés au Liban, à la Syrie, à la Tunisie, au Maroc, au Gabon, au pays du Golfe et au Pakistan et aux deux Corées. Il est également président du comité des chasses présidentielles, fonction qu'il conservera jusqu'à son décès et qu'il utilise pour des rencontres informelles avec des personnalités politiques, nationales ou étrangères. Ses relations avec François Mitterrand se détériorent progressivement. Il se voit refuser le titre d'ambassadeur itinérant qu'il réclame, si bien que le 12 juin 1985, il quitte ses fonctions de chargé de mission et devient conseiller international des avions Marcel Dassault, 1985-1986. Homme qui reste influent grâce à son riche carnet d'adresses, il conserve néanmoins son bureau élyséen, son appartement de fonction du Quai Branly, voisin de celui d'Anne et Mazarine Pinjot, ses secrétaires et gardes du corps du GIGN, avec le budget correspondant. Surnommé par certains l'homme de l'ombre, il continue de recevoir des visiteurs importants à l'Élysée ou ailleurs. Ses activités difficilement contrôlables n'ont pas manqué de susciter des jalousies et François de Grossouvre a fait l'objet d'une surveillance constante, mais il est petit à petit écarté du pouvoir à son grand dépit. Il se confie alors à des journalistes comme Edoui Plenel ou Jean Montaldo dans des critiques acerbes contre Mitterrand et son entourage. Le 7 avril 1994, de Grossouvre apprend dans son bureau au premier étage de l'aile ouest du palais de l'Élysée l'attentat contre le président rwandais Habyarimana et s'écrit « Les cons, ils n'ont pas fait ça ». À l'Elysée, ceux qui étaient favorables à une solution de force au Rwanda accusaient de Grossouvre d'être inféodé aux États-Unis dont il était le contact. Ce même jour, il a prévu de dîner avec sa maîtresse, Nicole, chez Georges Rawiri, ancien vice-premier ministre gabonais. En homme raffiné, on le surnomme le duc de Guise, il a fait envoyer à 18h un bouquet de fleurs à la maîtresse de maison avec un petit mot « Chers amis, je me réjouis d'être avec vous ce soir ». Entre 17h20 et 18h20, il reçoit son ami le docteur Jean Soubiel qui le trouve déprimé dans un état épouvantable et évoquant le suicide. Grossouvre part pour l'Élysée. Son garde du corps, un gendarme du GIGN, le retrouve mort, la tête à moitié arrachée par une balle du magnum qu'il tient encore en main, dans son bureau au premier étage de l'aile ouest du palais de l'Élysée. Le haut de son crâne est emporté, il y a du sang partout, des éclats de cerveau sur le bureau, sur les murs et jusqu'au plafond. Hein, le plafond.
Mais oui, ça me dit quelque chose en fait, oui.
Les gens d'à côté, animés par Estelle Dutrieux.
Bonjour Christophe Aguirre.
Bonjour.
Comment avez-vous rencontré Jean Lassalle ?
Eh bien, en fait, je suis pêcheur. Je pêche depuis l'âge de mes 11 ans, depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai été initié à la pêche par mon grand-père. Mon grand-père, qui était un réfugié espagnol, qui avait fui le franquisme. Et voilà, donc je pêche depuis maintenant quasiment 25 ans. Au début, je faisais beaucoup de la pêche à la ligne. Et ensuite, j'ai changé. Je me suis plus orienté vers la pêche au lancer. Et notamment la pêche à la mouche sèche. Et la mouche aussi au streamer. Le streamer, si vous voulez, c'est la pêche au vif. Voilà, parce qu'on a de la chance dans les Pyrénées d'avoir des beaux cours d'eau, des beaux fleuves. Moi, je viens de Bagnères de Bigorre, on a la Dour. Voilà, et puis il y a notamment la truite Fario, la truite arc-en-ciel, l'omble seigneurial, le Véron. Enfin voilà, on a la chance dans les Pyrénées d'avoir une faune aquatique vraiment riche et variée.
Et du coup, quel est le rapport entre la pêche et Jean Lassalle ?
Eh bien, en fait, mes grands-parents, ils habitaient à Lourdieu-Sichère. Jean Lassalle, en fait, est le maire de Lourdieu-Sichère depuis près de 40 ans. Et mes grands-parents connaissaient bien Jean Lassalle, en fait. Moi, je le connais depuis que je suis petit parce que, voilà, ma grand-mère, pour la fête de la transhumance, c'est elle qui faisait l'agneau farci et qui s'occupait de faire à manger. Et donc, Jean, il est venu souvent manger à la maison. Mon grand-père aussi le connaissait pour la transhumance et pour les bêtes. Et en fait, donc Jean, moi, je le connaissais. En plus, mon père, il était à l'école en même temps que lui. Enfin, il avait 10 ans de plus. Et en fait, moi, je connaissais Jean parce qu'aussi, il aime bien la pêche. Jean, il aime la pêche. Et moi, je pêchais avec lui aussi, des fois, avec mon père. Et donc, voilà. Puis moi, Jean, je le voyais régulièrement. Et puis après, il y a une amitié. Je connais aussi un peu son fils, Yannick, qui joue au rugby. Et quand il s'est engagé en politique, notamment au MoDem, eh bien, j'ai fait partie de son cabinet politique, quoi. J'ai travaillé avec lui et puis je me suis engagé notamment pour le mouvement politique Résistons.
Une des mesures phares du programme de Jean Lassalle était l'envoi de 500 aumôniers musulmans dans les prisons françaises,
oui.
Avec pour objectif la déradicalisation des détenus français. Il vous a confié cette mission de trouver ces imams. Pourquoi vous ?
Moi, en fait, je connais très très bien les Pyrénées. Les Pyrénées, donc c'est quand même, il faut savoir que c'est quand même 6 départements, c'est plus de 25 cantons. Les Pyrénées, ça fait quand même 19 000 km². Pour vous donner un ordre d'exemple, la Gironde, qui est le plus grand département de France, la Gironde, ça fait 10 000 km². Et en fait, les Pyrénées, c'est quand même 2 fois la Gironde. Donc c'est une région très très large, très très vaste. Que moi je connais bien, comme on dit chez nous, Astia Ulmao et Ifulukan, c'est pas un chien à qui on apprend à retrouver son chemin, c'est un proverbe béarnais. Et donc moi, connaissant très bien les Pyrénées, voilà, ça a été pour moi tout naturellement que, en plus, moi je suis très très investi au niveau de la pêche, je fais partie des comités intercommunaux, interdépartementaux et interrégionaux de la pêche. Donc voilà, je suis quand même assez, enfin, je connais du monde. Les Pyrénées aussi ont une particularité que géographiquement, le côté français, en fait, c'est assez escarpé et humide, et que du côté espagnol, en fait, avec l'effet de Fun, la montagne, elle est un peu plus aride parce que l'effet de Fun fait que c'est presque comme un paysage de désert. Et moi, je connais donc bien ces endroits parce que mon grand-père, qui a fui le franquisme dans les années 30. M'a souvent amené voir les endroits de passe, les endroits de cache. Faut savoir aussi que les gens ont beaucoup fui le franquisme et que pendant longtemps les Pyrénées ont été la terre de cache de l'ETA. L'ETA qui a quand même déposé les armes, il faut le signaler, au mois de mars 2017 de cette année. Et moi je connais bien tous ces endroits, toutes ces caches.
Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, Christophe. Ces imams. Ces lieux de votre enfance sur lesquels vous êtes retourné. Qu'avez-vous découvert, Christophe ?
J'ai découvert des choses, assez étranges. Je connaissais certains refuges, où d'habitude on trouvait des alpinistes, des promeneurs. J'avoue que maintenant, je n'entends plus trop des dialectes béarnais, basque ou gascon. J'ai vu des bergeries, avec plein de tapis au sol. J'ai vu des anciennes caches de l'ETA ou des caches où on faisait passer les gens qui républicains. J'ai vu du matériel. C'était pas du matériel agricole. J'ai vu.
Il faut dire les mots, Christophe.
J'ai vu des armes. J'ai vu des choses, des gens que je n'avais pas l'habitude de voir.
Qu'avez-vous pensé, Christophe, au fond de vous-même ?
Danse, danse, Ixan, danseur, sous la boule ronde, parfums, lumières et couleurs qui se répondent. Danse, dancing sans danseur, sous la boule ronde, parfums, lumières et couleurs qui se répondent. Je suis le beau bizarre venu là par hasard. L'alcool a un goût amer. Le jour, c'était hier. Mais l'orchestre dans un habit un peu passé joue le vide de ma vie désintégrée. Si j'ai ma veste noire, ce n'est pas par hasard. C'est la couleur que je préfère. Le blanc, c'était hier.
l'amour, ma vulve et ma boucherie, le sang rouge lavé de foutre, le foutre nage dans le sang.
Dans mes bras mauves, le parfum de pomme. Le panthéon de la bite majestueuse. L'amour chevelu de ma jambe. Un panthéon de foutre. Je dors la bouche ouverte. Dans l'attente d'une pine qui m'étrangle.
D'un jet fade. D'un jet gluant. L'extase qui m'encule. Et le marbre. De la verge maculée de sang.
Le plus beau présent de la vie est la liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. C'est une citation d'André Breton, pardon. Nous restons chez les surréalistes après bataille. Bonsoir. J'accueille Bonsoir. Ce soir le groupe de réflexion AVE autour de cette campagne présidentielle. Dont l'une des thématiques cachées, enfin pas cachée, en tout cas présente dans tous les programmes, mais pas forcément visible, était celui de la fin de vie. Donc vous êtes un groupe de réflexion qui s'est créé autour de ce chantier. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Benoît Bellal?
Mais écoutez, ce qu'on va désormais appeler la fin de vie relève de deux pratiques distinctes. D'une part, l'euthanasie, qu'on connaît un petit peu, qui est la possibilité, le droit pour une tierce personne d'intervenir, de décider de l'arrêt des soins sur un sujet en phase terminale ou qui est atteint d'une pathologie irréversible et qui n'a plus son discernement, qui n'a plus la conscience. Bon. Et la deuxième chose, c'est le suicide assisté. Le suicide assisté, c'est-à-dire un accompagnement le meilleur possible d'une décision prise par un sujet en plein discernement après, bien sûr, une étude, un examen très sérieux de son cas.
Très bien, c'est une assez bonne définition pour ceux qui ne connaissent pas encore ces aspects. Vous vous êtes réunis donc autour de cette thématique. Quand je dis réunis, c'est un groupe de réflexion dont vous êtes tous membres. Vous êtes tous membres de la société civile. Vous avez chacun un métier, un domaine d'activité. Vous travaillez dans les ministères, on peut dire ça comme ça. Vous êtes à l'éducation nationale. Vous êtes entrepreneur, vous présentez donc le volet entrepreneurial. Vous êtes psychiatre. Voilà, vous êtes réunis autour de cette thématique pour vraiment sensibiliser, je dirais, le monde politique, puisque vous sentez qu'aujourd'hui, la société contemporaine est prête pour accompagner, c'est un peu vague ce que je dis,
accepter.
Mais pour accepter. Voilà.
C'est un terme très important, l'acceptation. Vous savez.
Oui, j'imagine, oui. Voilà. Donc vous êtes psychiatre, vous avez travaillé un peu en Suisse, donc vous êtes coutumier du suicide assisté. Absolument. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça se passe? Et quel est votre domaine
comment
d'intervention?
Comment ça se passe? C'est qu'il y a déjà, de toute façon, la première chose. En préambule à tout ça, j'aurais parlé de la souffrance psychique qu'il y a chez les individus, qui crée forcément aussi des maladies. Donc tout part de du psychique. Hein, donc à partir de là, s'il y a une vraie souffrance, avant de prendre une décision, il y a un travail de discernement à faire, en engageant aussi des médecins, qui s'articulent aussi autour de tout ce qui est sanitaire et social. Et à partir de ce moment-là, on prend acte et on décide si la personne est prête. Et en Suisse, c'est comme ça que ça se passe, en fait.
D'accord. Donc vous avez travaillé, je dirais, enfin, on a un petit peu parlé hors antenne, de la formation des médecins, psychiatres, infirmiers, pour ces, ce qu'on appelle ces périodes d'accompagnement du patient.
Absolument.
En fait. Très bien.
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent à quel point on est dans un discernement, et après, il faut qu'il y ait des enquêtes de proximité, ce qu'on peut appeler des enquêtes, comme les enquêtes de voisinage, sur la personne en question, pour pouvoir vraiment être sûr de la décision.
Très bien. Alors, donc, on a dit en préambule que la fin de vie était présente plus ou moins dans les programmes de tous les candidats, parce que ça va avoir des conséquences sur la société et des conséquences qu'on n'imagine pas souvent. Et donc, c'est votre, on n'aime pas ces mots-là, un think tank, groupe de réflexion, qui a travaillé autour de ça et vous avez établi un rapport. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'il y a des choses à... Yves, je pense à vous, par exemple.
Ce rapport, c'est 1400 pages. Et c'est plus quelque chose qui est là pour préparer la société du futur à un énorme changement sociétal qui interviendra pour nous assurément à mi-mandat et qui commencera à se mettre en place très rapidement une fois le programme acté.
J'ai oublié de vous présenter votre domaine d'intervention. Vous, c'est plutôt
Le e-commerce, c'est-à-dire principalement les plateformes de mise en relation entre particuliers. Je suis vraiment dans une phase de préliminaire d'études de marché qui n'est pas du tout intéressante ce soir peut-être pour... Les premières livraisons de conclusion de notre think tank, si vous voulez, mais c'est en tout cas qu'à un moment donné, un changement sociétal s'accompagne et ne se fait pas dans le vide. Donc je suis là aussi pour anticiper ces choses, mais je ne suis pas le seul aussi.
On n'est pas là pour légitimer le processus,
non,
hein, on est vraiment là pour l'encadrer, en fait.
Très bien. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce qui ressort de ce rapport? Est-ce que... comment dire? Parce que nous, c'est une décision, ça peut être une mesure politique d'acter pour la fin de vie, donc euthanasie et suicide assisté, mais on n'en mesure pas forcément les conséquences. Et vous travaillez activement dessus depuis 3 ans, je crois, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... On ne mesure pas, nous, quidam, ce que ça peut représenter?
1400 pages. Mais évidemment, c'est une refonte complète de la place du citoyen au sein de la société. La société, on pourrait dire, n'est pas prête. On est là pour peut-être commencer à faire ce travail. Par contre, il me semble que les citoyens peuvent, de leur côté, comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. Et évidemment, les conséquences vont être absolument dans tous les domaines de la société, économique, juridique, il y a un travail considérable. De prime abord, c'est quand même une liberté individuelle. Le droit de choix d'avoir...
Le droit de choisir.
Exactement. Oui. Donc ça, c'est quand même la première chose la plus importante. Donc, et de sortir des conditionnements judéo-chrétiens sur la mort, etc. etc.
Et je pense qu'avant d'aller plus loin, il faut faire le distinguo entre l'euthanasie et le suicide assisté. C'est-à-dire que le suicide, c'est 16 000 morts par an, 200 000 tentatives. L'euthanasie, c'est complètement autre chose. Là, nous sommes là pour principalement envisager ce qui peut se passer avec cette nouvelle acceptation sociétale que va être... l'autorisation du suicide assisté,
bon,
sur le modèle suisse.
Ce nouveau choix, en fait, qui va être proposé à toute personne.
On parle de chiffres, donc si on parle de chiffres, c'est qu'on parle de prise en charge. Si on parle de prise en charge, c'est qu'on parle d'argent. Donc j'imagine qu'une mesure comme celle-là va s'accompagner forcément de modifications profondes au terme de sécurité sociale et de mutuelle et d'éducation. Valérie,
j'interviens auprès de l'éducation nationale, donc à un niveau plutôt programmatique. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, un enfant qui sera confronté à des membres de sa famille qui éventuellement choisiraient de mettre fin à leur jour ou qui, par la suite, à sa majorité, parce que, évidemment, le suicide assisté n'interviendrait qu'à partir de la majorité, parce qu'on est pleinement dans la citoyenneté, hein, c'est pareil, on a le droit de vote, on a le droit de choisir son issue de vie.
Alors justement, est-ce qu'on peut préciser un peu, vous parlez de choix, vous parlez de majorité, donc ça veut dire que c'est une décision, ou en tout cas c'est quelque chose par rapport à la c'est comme un investissement, en fait, si j'ai bien compris avec votre histoire de... Parce que, voilà, passeport de vie, vous en parlez beaucoup dans votre rapport, vous m'en avez fait part.
Oui. En amont, je vais peut-être juste vous rappeler une petite chose qui va éclairer les auditeurs. C'est que, donc, si on parle du suicide assisté, l'objectif de ce, de ce groupe de réflexion, c'est d'accompagner au mieux chaque sujet et qu'il y ait une prise en charge, que ce soit une prise en charge de la sécurité sociale ou des mutuelles privées. Bon, vous imaginez bien que quelqu'un de 25 ans qui décide avec discernement, sous le contrôle des psychiatres, qui décide de mettre fin à ses jours avec cette loi fin de vie, 25 ans, on peut imaginer peut-être, il a arrêté ses études à 22 ans, il a 3 ans de travail derrière lui, 3 ans de contribution sociale, et il a toute sa vie d'éducation, financée par l'État. Hein. Bon. Donc il est, de ce point de vue-là, on pourrait dire débiteur. C'est pas un très joli mot, mais bon, il est d'une certaine façon débiteur. Ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui a, par exemple, 62 ans, âge de la retraite, pic de productivité, a cotisé toute sa vie. Là, il a largement, entre guillemets, remboursé ce qu'il devait à l'État. Et s'il décide à ce moment-là de quitter, bon, c'est encore différent. Et c'est encore différent de quelqu'un de 90 ans, pleinement, en pleine possession de ses moyens, qui va effectivement procéder au suicide assisté, mais qui aura bénéficié de la retraite, et quelle retraite, etc., etc. Donc, en fait, cette prise en charge, elle va être fonction de l'âge du déclarant. Et voilà.
Voilà, donc, oui. Parce que j'ai un peu vu ça et on en a parlé tout à l'heure. Vous m'avez parlé de ce passeport de vie. Qu'est-ce que c'est que ce passeport de vie? C'est une décision.
À partir du moment où on parle d'une nouvelle liberté individuelle, on sait que dans notre société actuelle, et je suis assez bien placé pour en parler, une liberté ne s'accompagne forcément d'un pouvoir d'achat. À partir du moment où on choisit de donner le droit à quelqu'un de décider du terme de sa vie, il faut aussi pouvoir l'accompagner financièrement dans son choix. Et après, alors, on peut commencer par parler des adolescents suicidaires. Oui. Et Valérie, je pense que tu peux...
C'est la deuxième cause de mortalité, hein, le suicide des adolescents. Et c'est vrai que bon, nous, on souhaite avancer donc, sur les programmes, effectivement, voir ben, par exemple sur l'apprentissage des comptes, où on voit que ben, parfois on redevient vivant par la magie
d'un destin. Les comptes pour enfants.
Les comptes pour enfants, oui, on redevient vivant par la magie d'un baiser. Et effectivement, donc d'abord expliquer ce qu'est la mort
On n'incite absolument pas à ça. Hein.
Oui,
soyons clairs. Hein.
Oui,
c'est évidemment.
Et parallèlement, et ça, je suis peut-être pas la meilleure placée pour en parler, mais il y a cette histoire aussi de constituer une cagnotte que les parents financeraient pour que les parents.
On peut en savoir un peu plus.
Alors, comment on sort du conte de fées sans aller faire du prosélytisme pour le suicide assisté, ce qui serait vraiment. Voilà. Qui serait un non-sens par rapport à notre réflexion. Nous sommes pour la création d'une cagnotte dès le plus jeune âge, financée par les parents et par des partenaires privés, par la sécurité sociale. Ça, c'est à voir.
Ou la CAF.
Ça peut être complètement indexé.
Donc, ça veut dire que c'est une ligne supplémentaire.
Si vous prenez un adolescent qui a atteint sa majorité, il serait en disposition d'un pécule qu'il pourrait investir soit dans un futur suicide, bon, dans un cas, bien entendu, hyper réglementé que nous n'ont pas complètement fini de définir en tout cas, ou alors profiter de ce pécule pour ses études. Et c'est là où cette évolution sociétale devient, en plus d'une nouvelle liberté individuelle, un nouvel objectif et une nouvelle organisation.
Une économie aussi.
D'accord.
Et surtout, une nouvelle liberté de choisir, pas seulement choisir sa fin de vie, de choisir sa vie entière à partir de l'objectif de sa fin de vie.
Très bien. Ça c'est beaucoup plus clair. Il y a une personne qui vous a rejoint il y a 6 mois, dont on n'a pas encore parlé, qui va parler, qui est Franck Bourdi, qui est ecclésiaste, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et je vais vous passer le micro, vous pourrez parler. Qui vous a rejoint plus récemment.
Oui.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi, après on fera parler
Oui, plutôt à la fin du processus de réflexion qui a été le nôtre, parce qu'évidemment, on avait besoin, au départ, pendant 2 ans et demi, de s'affranchir de toute morale et de toute réflexion, entre guillemets, transcendantale, qui n'aurait fait que polluer les débats, je ne sais pas. Il fallait qu'on soit, pour parler très simplement, pragmatique, empirique, le plus rationnel possible pour modéliser justement ce qui allait être le futur modèle social issu de cette loi de vie. Évidemment, ensuite, lorsque les choses ont été à peu près claires, notre premier réflexe a été d'appeler un homme de religion.
Et puis, étant jungien, donc, il m'a semblé nécessaire d'avoir un peu cette fenêtre sur le spiritualisme.
Comment vous avez réagi quand on vous a contacté et quelles ont été vos premières sensations ou remarques?
Évidemment, en tant que religieux, je ne pouvais pas forcément être séduit de prime abord par le projet. Alors, je voudrais quand même, avant tout, revenir sur ce que tu as dit, Assad. Je vais bien mettre les choses au clair. L'idée de la mort n'est pas quelque chose de négatif dans l'imaginaire, enfin dans la religion. Ce qui est négatif, évidemment, c'est la manière dont on y entre. Le suicide, que ce soit par le suicide ou l'euthanasie, l'idée de décider de notre mort n'est évidemment pas quelque chose de souhaitable. Néanmoins, il y a évidemment le concret de la chose. Qui fait qu'effectivement, bon, tu as dit les chiffres, Valérie, donc qu'effectivement, il est important d'encadrer des personnes qui sont dans ce désespoir-là. Et je pense même que, le cas échéant, parce qu'on suscite quand même, enfin, on recourt à ce genre de choses quand on est en désespoir, et je pense qu'un groupe comme ça peut éventuellement apporter de l'espoir et peut-être même détourner les gens de cette voie-là.
Puis l'Église a souvent encadré la mort, hein, par l'extrême onction, enfin par plein de choses.
Comment réagissent les politiques? Parce que j'imagine que vous êtes apolitique, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment un groupe de réflexion indépendant. Vous avez abordé tous les candidats, parce que les candidats en ont parlé plus ou moins tous. Quelles ont été les réactions, Assad? Enfin, vous avez vu intervenir.
Il y a un candidat qu'on n'a pas réussi à joindre, malheureusement.
Très bien. Voilà. On ne demandera pas qui c'est, mais comment, parce que ce n'est pas le propos, mais comment les candidats ont réagi? Est-ce que vous sentez qu'eux sont prêts à ouvrir? Je vois réagir Valérie sur...
Bah, oui, c'est le processus est enclenché, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Vous voulez dire que la société va plus vite que les politiques?
Il l'a très bien dit, hein, c'est pour la mi-mandat.
Oui, c'est... Une mi-mandature, c'est le moment où intervient le projet électoral suivant. Et... Ce qu'on lit en filigrane dans les 400 points de chaque programme, dans les deux restants, c'est complètement présent. C'est même au-delà d'une prédiction astrologique. On est dans le concret. Ça interviendra dans 2 ans et demi, pour être très clair.
Alors j'ai une phrase, une citation de Camus qui dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Est-ce que c'est quelque chose qui vous meut ou qui ne vous dit rien? Est-ce que vous êtes au-delà de ça? Est-ce que vous êtes dans une réflexion beaucoup plus basique sur cette thématique?
Personne n'est au-delà d'une question comme ça. De toute façon, on est dans un groupe de toute façon qui parle justement de choses graves. Il faut quand même penser que quelqu'un qui s'y retrouve confronté va être confronté à un choix qu'il n'aurait jamais pu, même s'il a dit avant « je suis pour, je suis contre ». Quand on y est confronté, voilà.
Voilà, mais je pense aussi que la réflexion qui a été la nôtre ne change rien, en fait, à ce qui arrive depuis l'éternité des temps.
Pour tous, même pour les gens en prison, c'est un droit aussi pour les gens en prison. Très important, ça.
Sur le cas des personnes incarcérées, à partir du moment où on était incarcéré, on n'est plus libre de décider de sa vie, donc c'est encore quelque chose.
Si c'est un droit fondamental,
on est dans la pédagogie.
Les détenus doivent pouvoir y avoir
droit d'acceptation de nouvelles libertés.
Je pense que c'est une manière.
Non, tu ne peux. Ce n'est pas un combat des
libertés. Il y a aussi l'égalité, il y a aussi la fraternité.
Rooms are empty, I've got plenty. You can move in my Dans le cadre de notre partenariat avec le CNRS.
Bonjour.
Nous accueillons ce soir Pauline Massé.
Pauline Massé.
Qui travaille dans la cryptologie, les codes secrets.
Bonjour Frédéric.
Bonsoir.
Vous dites les codes secrets, tu as dit.
Oui, les codes secrets, enfin...
Non, ils agissent en réalité. C'était très joli le morceau de Christophe, je voulais dire.
Je vous remercie.
Bravo. Pardon. Voilà, je voulais vous dire... Oui, alors tu dis codes secrets,
Est-ce que vous
Frédéric.
Pouvez juste parler un petit peu moins près du micro?
Ah oui, pardon. Alors, tu dis, c'est bien comme ça, Frédéric ?
Un peu plus près.
D'accord.
Voilà.
Alors, en réalité, il s'agit de messages secrets. On peut dire messages secrets.
On parle bien de la cryptologie, donc. Hein.
Oui, de crypto. Alors, de cryptographie et de stéganographie. Ce sont deux courants qui permettent d'envoyer un message et qui ne peut être décrypté ni par le messager ni sur quelqu'un qui tomberait dessus par hasard.
D'accord, voilà. Vous avez des
ça a commencé il y a très longtemps. Oui, bien sûr. Alors, en stéganographie, ça a commencé... On retrouve des traces dès -500 avant JC, alors, en Perse, l'Iran. Voilà. En Perse, il y avait, par exemple, nous écrivions... Enfin, nous, les Perses en -500, écrivaient, par exemple, sur des tablettes de bois. Ils gravaient un message. Puis, ce message était recouvert de cire. Cette cire séchait. Un messager transportait le message jusqu'à un receveur. Ce receveur lui-même pouvait faire fondre la cire et ainsi il pouvait découvrir le message. Stéganos, caché, graphie.
Écriture.
Oui.
Et donc vous avez un autre exemple peut-être
Oui, alors j'en ai un autre en Chine. En Chine, à peu près à la même époque, on écrivait sur des petits bouts de soie, enfin les Chinois en -500, écrivaient sur des petits bouts de soie. Des petits carrés de soie, ils pouvaient écrire leur message, par exemple « Je t'aime, Tintao », par exemple. Et ce petit bout de soie était lui-même mis dans une petite sphère de papier. Cette petite sphère de papier était elle-même recouverte de cire. Alors, par exemple, Tintao envoie un message à Hihi par l'intermédiaire de Heng. Alors, Tintao donne le message à Heng, qui avale la boule de cire, fait le trajet jusqu'à Hihi. En arrivant chez Hihi, elle restitue, est une fille, elle restitue le message par les voies naturelles.
Très bien.
C'était un moyen de c'était un moyen de transmettre.
Alors là, est-ce que ça a un petit peu évolué avec le temps ?
Oui, alors absolument. Ça a évolué parce que, bon, ça c'était donc du caché. Ce n'était pas de la cryptographie ou cryptologie, comme tu disais, tu vois,
Frédéric. Tout à fait.
Voilà. Alors, la cryptographie est vraiment un moyen de crypter le message, de faire un chiffre. On dit chiffrer un message. Alors, c'est ce qu'on dirait. Vous pourriez dire un code secret.
Un code secret.
Alors, voilà. Alors, un des meilleurs moyens qui a existé, le premier, étonnamment, qui a trouvé cette petite farandole.
Ruse, peut-être.
Oui, ruse. Petite ruse, c'est César de
Jules
la
César.
Guerre des Gaules, par exemple.
Jules César. Donc.
Voilà, Jules César. Il a existé le chiffrement des Césars, qui était le premier chiffrement qui a vraiment posé des problèmes pour les gens qui voulaient décrypter ces messages de guerre. Voilà. Alors ainsi, le chiffrement de César est très simple. Nous avons l'alphabet clair. Oui. Alors on dit un alphabet clair, alphabet chiffré, qui donne le message crypté. Voilà. Alors l'alphabet est clair. Alors je vous ai apporté un petit module. Je ne sais pas si le jeune homme peut. Le jeune homme n'a plus de.
C'est pas grave, on peut y aller à la parole.
Je vais le montrer. Je peux vous le montrer. Voilà. Ceci est un disque...
Le jeune homme a récupéré sa caméra.
Ah, voilà. C'est un disque qui permet de crypter un message. Alors, de décaler l'alphabet clair. Vous voyez, l'alphabet clair est ici. Voilà. À l'intérieur, vous avez l'alphabet crypté. Je décide de commencer mon alphabet crypté à la lettre F. Donc, le A correspond à...
F.
Oui, très bien. Et par exemple, je choisis un mot comme élection. Je le traduis avec le chiffrement de César et j'obtiens JQJHYNTS. Très bien. On se rend compte que les deux E sont J et J. Alors, avec l'analyse des fréquences qu'ont observé les Arabes vers le 5e siècle, on se rend compte que ce code est facilement attaquable. Les cryptanalystes, pour eux, c'est très très simple. Ils font une, oui, alors les fréquences, en fait, alors par exemple dans la langue française, alors on a les E, le E est la lettre la plus employée dans la langue française, il y a à peu près 15,87% de E dans toute la langue française. Ensuite vient le A avec 9,42%, par exemple. Voilà, alors ça c'est attaquable avec l'analyse des fréquences. Mais arrive Vigenère au XVIe siècle, c'est un Français, il est le secrétaire du duc de Nevers. Et alors ce Vigenère, lui, est un sacré coco, si je peux. Voilà, alors Vigenère, lui, il crée un chiffrement polyalphabétique, parce que César c'était monoalphabétique. Et Vigenère, c'est polyalphabétique, ça veut dire que le jeune homme, vous avez le coude sur le table de Vigenère, ici. Voilà. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous voyez, en fait, nous avons l'alphabet clair qui est ici et tous les alphabets qui permettent de crypter un message en utilisant un alphabet crypté par lettre. Ainsi, l'analyse des fréquences est impossible.
D'accord. Voilà. Est-ce que
oui, puisque vous voulez un exemple?
Oui, j'aimerais appliquer à...
Donnez-moi... alors, oui, parce qu'il faut un mot-clé hein, pour visionner.
D'accord, allons-y.
Alors, donnez-moi un mot-clé, s'il vous plaît, Frédéric.
Bulletin blanc ?
Oui, bulletin blanc. Très bien. Donnez-moi une phrase que, par exemple, vous voulez envoyer à une personne de votre connaissance.
Je vais voter au second tour.
Je vais voter au second tour. Très bien. Alors, je fais ça rapidement dans ma tête avec le de visionnaire. Nous obtenons donc... je vais voter au second tour. KYGLMLDBUPRNWTYNZRWBBVC.
Très voilà. Bien, c'est assez impressionnant.
Indécryptable.
Totalement.
Surtout que vous observez que dans cette phrase, il y a trois O. Et les O ici, contrairement à l'élection où les deux E étaient 3D8JJ, ici les O sont traduits respectivement DZ et B. Adieu les analystes de fréquence.
D'accord. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous êtes penché sur les programmes des candidats. Il y a
absolument.
des choses à voir.
Oui. Alors vous m'aviez demandé un petit peu de pencher dessus. Est-ce que je peux arracher le micro?
Oui, je vous en prie. Faites attention juste au câble. Hein.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup. Ah voilà. Pardon. Oui. Alors j'ai regardé. Je me suis penchée sur notamment deux personnes.
Oui.
Qui, si vous voulez, un cryptanalyste. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut décrypter un message qui n'est pas clair. Or, il s'avère que dans les programmes, par exemple, des messieurs de la politique, on semble lire des choses claires. Vous voyez, des phrases « Nous sommes en France », ils écrivent en français. Très bien, on se dit « Oh, c'est clair, c'est en français ». Or, le travail double, comme un agent double, le travail est de trouver dans une phrase claire française qu'en réalité, et j'ai découvert ça un petit peu là, pendant les deux mois qui se sont écoulés, que tout n'est pas si clair que ça. Dans ce que dit, par exemple, M. Jean-Paul Mélenchon.
Jean-Luc.
Alors, M. Jean-Luc Mélenchon, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il s'avère que dans son programme, il y a énormément de chiffres. Voyez ? Voilà. Alors, des chiffres que j'ai reliés les uns avec les autres. Le total de ces chiffres donne une somme de 7 933 euros. Il nous livre donc les revenus qu'il a chaque mois. Bon, c'est une première chose, mais ça n'a pas d'importance. L'importance principale est qu'il s'avère que j'ai découvert que dans son programme, en réalité, il nous parle de lui et c'est une sorte de journal intime sur une journée. Vous voyez ? Alors, les chiffres qui sont, par exemple, si nous pouvons découvrir qu'il se lève vers 6h05 du matin, qu'il prend une douche de 7 minutes... se regarde dans son miroir, alors ça c'est, oui, alors c'est plus avec l'analyse des fréquences justement des lettres, qu'il se regarde dans son miroir, puis se rend à son bureau avec le bus numéro 4000, 4000 étant lui-même, bon, je passe les détails, etc. Et ensuite, il arrive à son bureau, il se regarde dans son miroir, à la suite de quoi il discute avec ses conseillers environ 35 minutes, etc., etc., etc. Donc ce programme est tout à fait un journal intime, ce qui peut être intéressant.
On en a un autre comme ça ?
Alors c'est très différent. Alors c'est Monsieur Dupont-Aignan.
Vous ne faites pas la liaison.
Il y a un tiret.
Pardon.
Voilà. Alors Monsieur Dupont-Aignan, ce n'est pas du tout le même système. Et là, c'est là qu'on est content d'avoir le tableau de Visionnaire que je vous remonte. Voilà. Alors, voyez cette photo. Il y a une photo dans le programme avec trois hommes. Deux hommes en chemise blanche, un homme en chemise bleue. Voilà. Dans une vigne. Vigne. Visionnaire.
Donc, vous êtes en train de
dire, que
c'est codé.
Nous découvrons que c'est codé par un double code. Alors voilà. Alors, par exemple, et alors vous allez être surpris par Monsieur Dupont-Aignan. Alors, on dit ci, on dit ça, gna 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 gna. Eh bien, figurez-vous que, après décryptage, par exemple, supprimer les zones blanches de téléphonie et couvrir tout le territoire en haut débit Internet signifie en réalité aimer vos enfants, les noirs comme les blancs. Et oui. Alors, ça nous embouche.
Oui.
Et évidemment que à partir de là, moi, je me suis pensée sur la suite. J'ai aussi découvert que il favorise le terrorisme, et j'ai trouvé ça assez ouvert de sa part finalement. Voilà. Alors on a aussi. Non, tu filmes pas, Emmanuel. Merci Frédéric.
De rien. Merci Pauline.
Thank you for the sun that wants to sing. Sunny, there is still love. It's old. And it's so hard. And you say you feel. And it's so hard. And you say you feel. And it's so hard. And you say you feel. And it's so hard. And you're saying 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 you're sa
La nouvelle théorie astronomique disait ne sentons pas les mouvements de la Terre, mais si nous admettons son mobilité, nous aboutissons à une absurdité. En admettant son mouvement que nous ne sentons pas, nous arrivons à formuler des lois. La nouvelle théorie historique disait nous ne sentons pas, il est vrai, notre dépendance, mais si nous admettons notre liberté, nous aboutissons à une absurdité. Tandis qu'en admettant que nous dépendons du monde extérieur, du temps et de la causalité, nous aboutissons à des lois.
Si j'observe en moi-même tout le processus du désir, je vois qu'il comporte toujours un objet vers lequel se tend mon esprit, afin de me procurer une sensation. Et je vois quand ce processus il y a résistance, tentation et discipline. Il y a perception, sensation, contact et désir. Et l'esprit devient l'instrument mécanique de ce processus, en lequel les objets, les mots, les symboles sont le centre sur lequel se bâtissent tous les désirs, toutes les ambitions, toutes les poursuites. Et ce centre est le moi. Puis-je dissoudre ce centre de désir ? Dissoudre non pas un désir particulier, un certain appétit, mais la structure entière du désir, de l'espoir, de l'aspiration, en laquelle réside toujours la crainte de la frustration. Le grand instant de Deborah Panel. J'accueille Tony et Luc.
Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé. ta révérence. La forêt de nouveau frémit. Je profite du silence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue.
Bonsoir Tony Lascaux.
Bonsoir.
Bonsoir Luc Ferroy.
Bonsoir.
Comment vous êtes-vous rencontrés?
On s'est rencontrés au Palm Beach Hotel de Paphos à Chypre. Personnellement, je sortais, j'étais en plein stage de décompression après une OPEX de 6 mois en Afghanistan.
Une opération militaire externe.
Que l'armée nous organise parce que sinon, comment dire, la différence entre le front et la vie réelle est trop compliquée.
Et vous, Luc ?
Moi, j'étais un petit peu perdu comme ça. Je me retrouve là-bas en transit. Des mauvaises rencontres, je tombe amoureux. Et puis, très rapidement, dépression, drogue et prostitution.
La spirale infernale, quoi.
Voilà, oui. Ouais.
Cette rencontre, dites-moi, cet instant.
Un regard.
Une fulgurance.
C'était un espèce de moment suspendu.
Oui.
Et on était comme deux enfants perdus, en quelque sorte, et on va dire que, voilà, c'est des choses qu'on sent très vite.
Oui, le corps ne peut pas tricher, c'était véritablement...
chimique.
Oui, chimique, une étincelle comme ça. Oui.
C'est-à-dire que, voilà, quand l'autre n'est pas dans la pièce, tout de suite on suffoque, on manque d'air, etc.
Oui.
De cette rencontre est né un projet.
Oui.
Quelle est la nature de ce projet?
Notre bébé, quoi. C'est-à-dire...
En fait, suite à cette rencontre et suite au stage de décompression, on a choisi d'ouvrir un club de passe.
Oui, je t'arrête. Enfin, j'aime plutôt le terme club des plaisirs, disons. voilà, une sorte, bien sûr, de club libertin, mais plus amélioré, disons. Et bien sûr, il y a une réflexion derrière. Hein, et,
c'est un lieu ouvert à tous.
Voilà.
Mais d'où ça vient ? Ça vient de vous, ça, Denis, ça vient d'où ?
Comme je l'ai dit, on était deux enfants perdus. Bon, pour vous raconter la petite histoire, j'ai été engagé volontaire à 18 ans au 3e RPIMA de Castres en tant que combattant parachutiste. J'ai été très vite en OPEX en Afghanistan et il y a eu une embuscade au col d'Ouzbin. On a été pris en tenaille par les talibans. Ça a été des accrochages extrêmement violents. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y a eu près de 50 mis hors de combat de notre côté. À la fin, ça s'est réglé à l'arme blanche. On a presque bu notre pisse. Et j'ai, comment dire, j'avais envie de retrouver cette même adrénaline que j'ai ressentie ce jour-là. Parce que pour moi, le sexe, c'est vraiment une bataille, une guerre avec un peu moins de morts, mais c'est quand même une bataille. Je veux dire, il n'y a qu'à voir un lit après une séance de boukake ou une séance de fist fucking. Je veux dire, c'est un champ de bataille, quoi.
Et vous, Luc, ça vient d'où ? Ça sort d'où ?
Ce goût m'est venu lorsque j'ai rencontré Tony. Voilà, il m'a montré diverses expériences. Il m'a un petit peu tout appris, il m'a ouvert les yeux sur ce que pouvait être la sexualité.
Libéré.
Voilà, libéré. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, après c'est difficile de s'arrêter. Et donc c'est pour ça que nous avons ouvert ce club des plaisirs. Nous avons trouvé un local en banlieue parisienne, un ancien cinéma.
Un château.
Ouais.
Les pratiques, parlez-moi des pratiques.
Les pratiques sont diverses et variées. Hein. Ça va, bien sûr, du boukake au fist fucking.
On est le seul club d'Île-de-France à pratiquer la double anale, notamment.
Oui.
Mais ça peut être tout, en fait. Ça peut être de l'uro, ça peut être... En fait, tout dépend, j'ai envie de dire, du désir, du prix, mais également de la physionomie de la personne.
Oui.
Mais après, on a quand même une limite, c'est la pédophilie, voilà.
La pédophilie et aussi la zoophilie.
Oui, ça, c'est grâce à Doudou.
Oui, parce que j'aime beaucoup les animaux et... Si bien sûr il y a une chose, les animaux, eux, ne peuvent pas dire stop.
Vous êtes des créateurs d'images ?
Des créateurs d'images, oui, le mot est un peu fort, mais disons que nous avons voulu amener dans notre club une ambiance, créer une ambiance particulière. Donc nous avons créé des salles diverses.
À thème.
À thème. Quelque chose de très théâtral. Je pense par exemple à la cellule pour les militaires, les gendarmes.
Le Newf. On pense, voilà, qu'on est 7 milliards sur Terre et qu'il y a autant de fantasmes et de désirs que de personnes. Il y a également une salle des légionnaires. Voilà. Parce que, voilà, il y a des mecs que ça fait triper... d'avoir voilà, le képi et puis ou alors de se déguiser en chèvre. Il y a la salle aussi de l'histoire de France. Voilà, parce qu'il y a des mecs que ça fait triquer voilà, de baiser en Napoléon. Mais ça peut être Jules César, ça peut être n'importe quoi. Hein.
Je pense aussi à la porcherie, bien sûr, ou encore le bureau du député pour les politiques, par exemple.
Oui.
Vous venez de parler de politique... Qui sont vos clients ? Comment sont-ils ?
Oui, voilà. Alors, c'est sûr qu'on a voulu créer un club de standing tout de même.
Mmh. Oui, l'idée, c'est pas le mec qui travaille à la Défense et avant de rentrer chez Bobonne, il vient nous voir. Ça, c'est exclu.
Non, c'est exclu. On a une clientèle qui est triée sur le volet. Et bien sûr, essentiellement des personnalités du show business, mais aussi des artistes, des sportifs, des beaucoup de politiques, j'ai déjà dit le show business, mais les hommes d'affaires, enfin voilà, des personnes.
C'est vrai que là, par exemple, à l'approche des élections, on reçoit beaucoup de politiques. Et quelque part, c'est vrai que c'est quand même les clients les plus décalqués, quoi.
Ouais, ce qui est troublant, c'est de voir qu'il y a une comparaison entre leur programme et leur pratique sexuelle, par exemple.
Allez-y, développez.
Bah, Toubon, par exemple, quand il était ministre de l'Éducation, Jacques Toubon, mm-hmm. bah, il pouvait limer pendant 4 heures. Hein. Mm. On a été obligé d'appeler le SAMU une fois. Quoi. Mm. Mais les mecs, bon, par exemple, à la gauche, bon, je parle du PS, ils sont plus dans le tout ce qui est fétichiste, etc. Beaucoup Uro.
Tandis qu'à droite, c'est plus voilà, BDSM, cuir, latex.
Bondage.
Et au centre, alors là, c'est plus travelotage, jeu de rôle.
Que à l'UDI. Hein. Au nouveau centre, ils sont quand même beaucoup plus triolisme. Oui, toutes ces pratiques-là, quoi, en groupe. Mmh. Sexe de groupe, on appelle.
Parlez-moi des extrêmes.
Là, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire.
On ne peut pas en parler.
Il y a une charte de confidentialité, hein, bien sûr.
En fait, on est soumis à une décharge d'anonymat. Excusez-moi pour le terme décharge.
Vous avez un ou plusieurs souvenirs qui vous ont marqué, qui se sont inscrits en vous ?
Mimi, oui. Vas-y, raconte.
Bon, j'ai pas vraiment le droit de divulguer des noms, mais il y en a qui sont passés à la concurrence, donc tant pis pour eux.
Oui, allez-y.
Bah, Luc Châtel, par exemple. Mmh. Bon, on l'appelait Sus Debout.
Mmh. Mais c'est vrai.
Allez-y.
Bah, je sais pas si j'ai le droit, mais Emmanuel Macron.
Alors, va doucement tout de même avec Manu parce que c'est un bon client et Brigitte est une bonne amie.
Bah, c'est-à-dire que Macron, on savait qu'il aimait les cookies. Mmh. Il aime aussi les granits.
Mmh. Développez, allez-y.
Bon, j'en ai Le Pen. Mmh.
J'adore oui, quand il raconte cette anecdote.
Allez-y.
À la fille Le Pen, quand elle était gamine, vers 20 ans, elle allait à la sortie des facs style Censier. Elle regardait les étudiants qui faisaient le plus gaucho, du genre vraiment syndicaliste et tout ça. Elle passait la nuit avec eux. Et puis le lendemain matin, au saut du lit, entre le café et le croissant, elle leur disait « Eh, tu sais ce que c'est mon nom de famille ?» Le Pen. Elle voulait juste voir leur gueule.
J'adore cette anecdote.
Viens, suis-moi. Je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Viens,
de je t'entraînerai, et sans que tu saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velou, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velou, bébé requin, bébé d'amour. Pour te garder, moi je me battrai contre mes sœurs. Je veux être la seule à te manger le cœur.
Voilà, c'est par ici. Petite chaise noire, là, qui vous attend. Voilà, France Gall, asseyez-vous. C'est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Un peu plus près du micro.
Ah, pardon.
Non, attention, c'est pas une sucette. Alors... Ah oui, touchez-le, voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes difficile à suivre. Vous savez que vous êtes difficile à suivre, France.
Je comprends pas.
Ben, je me sens un petit peu comme un petit poisson ce soir. Bébé requin.
Pardon.
Voilà, c'est pas grave. Toujours aussi jolie, toujours aussi fine, toujours aussi mince, toujours aussi...
Merci. Bah, oui, c'est vrai, les gens ont dit que j'avais minci. Mais en fait, c'est juste mes joues qui ont minci. Sinon, moi, j'ai toujours fait le même poids, en fait.
D'accord. Il fait chaud, France Gall ?
Oh non, ça va, je trouve.
Alors pourquoi ces chaussettes ?
Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de bien comprendre les questions. Je ne sais pas si je ne sais pas comment répondre.
Alors peut-être quelqu'un vous a mis ces chaussettes ? Un cheval blanc ou un prince charmant sur un cheval blanc galopant dans vos rêves d'enfant. C'est peut-être chargé de votre garde-robe ce soir.
Ah oui, j'ai compris.
Ah, oui, on y est.
Je voulais savoir si je partage ma vie avec quelqu'un, oui, c'est ça ?
Sur le plan féminin.
Non.
Pas d'évolution ?
Non, pas spécialement.
Bon. Et s'il était blessé, tu le caresserais ? Il deviendrait roi par amour pour toi ?
Ah, ça y est, j'ai compris.
Oui, vous vous souvenez de cette nuit avec Serge Gainsbourg à Cabourg ? Alors, c'est une soirée incroyable, épatante. Vous décidez de partir avec lui toute la nuit. Alors, vous allez prendre ce petit chemin de crête. Le vent souffle, vous êtes bras nus. Il est là, il a écrit toutes vos chansons. Il est 22h30. Qu'est-ce qui se passe après, France Gall ?
Eh bien, figurez-vous qu'on a mangé des huîtres. Oui, parce que Serge est un grand amateur d'huîtres. Et du coup, il m'a fait... Alors moi, au début, je croyais que j'aimais pas ça. Eh bien, grâce à Serge, j'aime beaucoup les huîtres.
Bon. Alors, une dernière chance, une dernière
c'était
question.
Une super soirée.
Dernière question, France Gall. Pourquoi vous chantez ?
Mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous posez des questions ?
À venir ne débuteront pas par l'effondrement de la société. Elles seront dues à tout ce qui peut permettre à la société de continuer de fonctionner de manière ordonnée. Ce ne sont ni des chefs charismatiques, ni des démagogues vociférants du haut de balcon qui nous mèneront à la catastrophe. Ils appartiennent au passé. La technomachie n'a pas de visage. Les communautés seront divisées. Les gens vivront dans des ghettos pour les riches ou dans des prisons, les uns comme les autres, aussi vastes que des villes. Tous seront administrés avec efficacité. La violence qui se révélera nécessaire passera pour être normale. Les guerres n'auront pas lieu entre les nations. Chaque nation livrera contre elle-même cette guerre qu'est la technomachie. Les combats prendront la forme officielle d'exécution. L'économie de consommation n'a aucun besoin structurel de la justice. Et du moment que la société peut administrer le crime avec efficacité, elle n'a aucun besoin de l'humain. Il suffira d'oublier notre humanité pendant quelques temps, quelques jours. En fait, il ne nous faudra qu'un instant de distraction. Et nous vivons à une époque où règne la distraction. Nous n'essaierons ni de revenir vers elle, ni de partir à sa recherche. Nous l'aurons oublié. On nous privera de ses derniers vestiges sous forme d'une mesure de bon sens prise par commodité administrative. Avec la même facilité que celle de serveur débarrassant une table de ses miettes, nous ne nous réveillerons pas au milieu de ruines. Il n'y en aura pas. Les ghettos et les prisons seront bien entretenus. Nous ne nous soucierons pas de savoir comment nous avons perdu notre humanité. Nous ne saurons pas que nous l'avons perdue. Lorsque l'humain disparaît, il ne manque à personne. ce n'est qu'à ce qui est humain que l'humain pourrait manquer. Nous serons pareils à ceux qui s'habillent pour aller voir une exécution. Comment peut-on dire à ceux qui regardent de leur plein gré tuer un être humain qu'ils sont corrompus ? Dans le passé, le transcendant nous rappelait notre humanité. Nous étions les enfants de Dieu, les enfants de la patrie, le peuple de la mer, des montagnes ou des plaines. Aujourd'hui, nous sommes les enfants du marché. La dynamique du marché n'est pas la recherche de l'humain. Elle est l'impératif de la consommation. Il nous faut nous soumettre à cet impératif, non pour vivre, mais pour survivre. Vivre est un luxe que ne peuvent se permettre que les nantis. Nous n'avons aujourd'hui aucune raison structurelle à l'être humain. Cela a l'air d'une exagération. Les désastres des 100 dernières années ont l'air d'une exagération. Mais l'histoire n'exagère jamais. Qui aurait imaginé les cendres d'Auschwitz ou les déserts de briques d'Hiroshima et Nagasaki ? Attendez quelque temps et l'impensable devient inéluctable. L'impossible devient ordinaire. Et n'imaginez pas que nous serions incapables de quitter la ville hypermarché pour rentrer chez nous en passant devant les baraquements et la fosse. Ce serait une question de style de vie. Nous ne pouvons demeurer humains qu'en étant radicaux. C'est ce qu'il y a de radical qui permet à l'enfant de créer le monde. Tendez l'autre joue. Cela n'est pas suffisamment radical. Le sadomasochisme contradictoire du Nouveau Testament ne nous sera d'aucun secours. Aucun Dieu pour penser à notre place. Il n'existe que le marché. Il nous faut associer à la raison une imagination radicale. Nous pourrions voir la vacuité du transcendant. L'imagination pourrait rendre immanent le matérialisme. Nous pourrions devenir plus proches du monde. Nous pourrions nous recréer nous-mêmes. Le rôle du créateur, de l'écrivain, n'est pas de faire des concessions. Ce rôle-là est celui des fabricants. Il nous faut être plus radicaux. Lorsque les fabricants font des concessions, ils changent nos rêves. Lorsque les créateurs refusent les concessions, ils changent la réalité.
C'était Époque, pour en finir avec, une émission proposée par Frédéric Jessua, avec Maïs Elfassi, Pierre-Marie Baudouin, Benjamin Poré, Julien Buchy, Clovis Foin, Thomas Arnaud, Baptiste Chabotis, Félicité Chaton, Elsa Grézac, Vincent Thépeau, Elissa Aloula, Jérôme Huguet, Daniel Blanchard, Alexandre Mouchetouris, Sarah-Jeanne Driot, Sofiane Le Sen, Kader Boukanef, Louise Coldefy, Antoine Charnot, Aurélia Artaud, Raouf Raïs, Marine Collard, Morgane Laurie. Vous avez pu entendre successivement des musiques de Police, Max Roach, Can, Christophe, The Stone Roses, Les Cop, France Gall, Alexandre Mouchetouris et Baptiste Chabotis sur des textes d'Anna Arendt, La condition de l'homme moderne, Wikipédia, article François de Grossouvre, Frédéric Jessua, Époque, Antonin Artaud, Écrit révolutionnaire, Georges Bataille, Poème érotique, Léon Tolstoï, Guerre et paix, et Édouard Bond, La trame cachée, improvisation par les comédiens. Arrangements musicaux dirigés par Baptiste Chabotis. Lumière et régie générale, Marinette Buchy. Remerciements à Vincent Thépeau, Antoine Dubois et Chloé de Broca. Une production La Boîte à outils avec le soutien de Curie Vavard. Je suis Cassandre Vitu de Keraoul. Nous rendons maintenant l'antenne. Merci de votre attention. Ah oui, une petite pensée brechtienne qui, entre deux caries, me hante tous les soirs quand je me brosse les dents. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution par temps de crise.
Metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day.